Vous écoutez France Culture.
Enregistré au Vieux Colombier le 9 mars 2010, nous rejoignons Christian Gonon dans un hommage à Pierre Desproges intitulé « La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute ».
Je vais mourir ces jours-ci. Il y a des signes qui ne trompent pas. Sur le plan purement clinique, le signe irréfutable de ma fin prochaine m'est apparu hier, à table. Je n'ai pas envie de mon verre de vin. Rien qu'à la vue de la liqueur rouge sombre aux reflets métalliques, mon cœur s'est soulevé. C'était pourtant un grand Saint-Émilion, un château Figeac, 1971, c'est-à-dire l'une des plus importantes créations du génie humain depuis l'invention du cinéma par les frères Lumière en 1895. J'ai soulevé mon verre, j'ai pointé le nez dedans, j'ai fait Burke. Pire, comme j'avais grand soif, je me suis servi un verre d'eau. Il s'agit de ce liquide transparent qui sort des robinets et dont on se sert pour se laver. Je n'en avais encore jamais vu dans un verre. On se demande ce qu'ils mettent dedans. Ça sent l'oxygène et l'hydrogène. Mais enfin, bon, j'en ai bu, c'est donc la fin. C'est horrible. Partir comme ça, sans avoir vécu la Troisième Guerre mondiale, avec ma chère femme et mes chers enfants courant nus sous les bombes, mourir sans savoir qui va gagner, Poulidor ou Hino, Saint-Étienne ou Sochaux, mourir sans avoir jamais rien compris à la finalité de l'homme, mourir avec au cœur l'immense question restée sans réponse, si Dieu existe, pourquoi les deux tiers des enfants du monde sont-ils affamés? Pourquoi la terre est-elle en permanence à feu et à sang? Pourquoi vivons-nous avec au ventre la peur incessante de l'holocauste atomique suprême? Pourquoi mon magnétoscope est-il en panne? Pourquoi? 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 Qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Quand est-ce qu'on mange? Seul Woody Allen, qui cache pudiquement sous des dehors comiques un réel tempérament de rigolo, a su répondre à ces angoissantes questions de la condition humaine. Et sa réponse est négative. Non seulement Dieu n'existe pas, mais essayez de trouver un plombier pendant le week-end. J'en vois d'ici qui sourit. C'est qu'ils ne savent pas reconnaître l'authentique désespérance qui se cache sous les pirouettes verbales. Vous connaissez de vraies bonnes raisons de rire, vous? Vous ne voyez donc pas ce qui se passe autour de vous? Si encore la plus petite lueur d'espoir nous était offerte. Avant de mourir, je tiens à remercier tout particulièrement la municipalité de Pantin, où je suis né. Place Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval. Et comme je suis né gratuitement, je préviens aimablement les corbeaux noirs en casquette de chez Roblot et d'ailleurs que je tiens également à mourir sans verser un copec. Écoutez-moi bien, vampire nécrophage de France. Abattre des chaînes pour en faire des boîtes, guillotiner des fleurs pour en faire des couronnes, faire semblant d'être triste avec des tronches de faux cul, bousculer le chagrin des autres en leur exhibant des catalogues cadavériques, gagner sa vie sur la mort de son prochain. C'est un des métiers les moins touchés par le chômage dans notre beau pays. Mais moi, je vous préviens, croque-mort de France, mon cadavre sera piégé. Le premier qui me touche, je lui saute à la gueule. Étonnant. Non ?
Thank you.
un critique de film, dont je tairai le nom, afin qu'il n'émerge point du légitime anonymat où le maintient son indigence, écrivait dans un hebdomadaire dans lequel, de crainte qu'il n'y pourrisse, je n'enfermerai pas mes harengs, un critique de film, disais-je donc, avant de m'ensabler dans les méandres sournois de mes aigreurs égarés entre deux virgules si éloignées du début de ma phrase que voilà-t-il pas que je ne sais plus de quoi je cause. Un critique de film écrivait récemment à propos, je crois, d'un film de Claude Zidi. Deux points, ouvrez les guillemets avec des pincettes. C'est un film qui n'a pas d'autre ambition que celle de nous faire rire. Je dis merci. Merci à toi, incontinent crétin, justement ignoré. Merci d'avoir fait sous toi, permettant ainsi à l'humble chroniqueur radiophonique quotidien de trouver matière, je pèse mes mots, à entretenir sa verve misanthropique que les yeux tendres des enfants et la douceur de vivre en ce pays sans barreaux aux fenêtres des dictateurs en fuite font encore trop souvent chanceler. C'est la verve qui chancelle. Merci, sinistrissime ruminant, pour les réelles perfections de ta bouse étalée comme un engrais prometteur sur le pré clairsemé de mon inspiration vacillante où je cherchais en vain ce soir les trèfles à quatre griffes de ma haine ordinaire et qui s'épanouit jour après jour au vent mauvais. Relisons ensemble cette sentence digne de figurer au fronton du mausolée à la gloire du connard inconnu mort pour la transe. C'est un film qui n'a pas d'autre ambition que celle de nous faire rire. Ce qui, sans génie, je vous l'accorde, me fait bouillir. C'est qu'un cuistre ose rabaisser l'art, que dis-je, l'artisanat du rire, au rang d'une palotte besognette pour façonneur léthargique de cocottes en papier. Alors, qu'on me comprenne, je ne plaide pas pour ma chapelle. D'ailleurs, je ne cherche pas à vous faire rire, mais seulement à nourrir ma famille, en ébauchant ici chaque jour un grand problème d'actualité. Ceci est une chronique qui n'a pas d'autre prétention que celle de me faire manger. Mais qui es-tu, zéro flappy, pour te permettre de penser que le labeur du clown se fait sans la sueur de l'homme? Qui t'autorise à croire que l'humoriste est sans orgueil? Mais elle est immense, mon cher, la prétention de faire rire un film, un livre, une pièce, un dessin qui cherche à donner de la joie. À vendre de la joie, faut pas déconner. Ça se prépare, ça se découpe, ça se polie. Une œuvre pour de rire, ça se tourne comme un fauteuil d'ébéniste ou comme un compliment. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire avec ce trou béant dans ta boîte crânienne. Molière qui fait toujours rire le troisième âge. À transpirer, à en mourir. Chaplin a sué. Guitry s'est défoncé. Woody Allen et Mel Brooks sont fatigués souvent pour avoir eu 20 heures par jour la prétention de nous faire rire. Claude Zidi s'emmerde et se décourage et s'épuise et continue. Et c'est souvent terrible. Car il arrive que ses films ne fassent rire que lui. Et deux charlots sur trois. Mais il faut plus d'idées, d'ambition et de travail pour accoucher des ripoux que pour avorter de films fœtus à la Duras et autres déliquescences placentaires où le cinéphile lacanien rejoint le handicapé mental dans un même élan d'idolâtrie pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la merde. Pauvre petit censeur de joie. Tu sais ce qu'il te dit, monsieur Hulot? Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. J'aime beaucoup l'humanité. Je ne parle pas du bulletin de l'amicale, de la lutte finale et des casquettes Ricard réunies. Je veux dire le genre humain, avec ses faiblesses, sa force, son inépuisable volonté de dépasser les dieux, ses craintes obscures des ténèbres, sa peur païenne de la mort, sa tranquille résignation devant le péage de l'autoroute A6 dimanche dernier à 18h. Il y a en chaque homme une trouble désespérance à l'idée que la brièveté de son propre passage sur Terre ne lui permettra pas d'embrasser tous ses semblables, et particulièrement Madame Lemercier Yvette du Vésinet qui ne sort jamais sans son berger allemand, cette conne. C'est un crève-cœur que de ne pouvoir aimer tous les hommes. À y bien réfléchir, on peut diviser l'humanité en 4 grandes catégories qu'on a plus ou moins le temps d'aimer. Alors, les amis, les copains, les relations et les gens qu'on ne connaît pas. Les amis se comptent sur les doigts de la main du baron Empin. Voire de Django Reinhardt pour les plus misanthropes. Ils sont extrêmement rares et précieux. On peut faire du vélo avec eux sans parler, tandis que le soir tombe négligemment sur les champs de blé et on a même pas mal dans les jambes, dans les côtes. La caractéristique principale d'un ami est sa capacité à vous décevoir. Certes, on peut être légèrement déçu par la gauche ou pour les performances de l'AS Saint-Étienne, mais la déception profonde, la vraie, celle qui peut vous faire oublier le goût des grands Saint-Émilion, ne peut venir que d'un véritable ami. Par exemple, hier, j'ai été déçu par mon ami, Jean-Louis, qui est pourtant vraiment mon ami, puisque parfois nous ne parlons même pas, même à pied, dans les sentiers de Picardie. Je venais de lui apprendre que j'avais acquis une petite chienne, une bergère. Allemande, certes, mais une bergère. Eh bien, sans prendre le temps de réfléchir pour ne pas me faire de la peine, il m'a dit, en ricanant, « Ah, un chien nazi, tu lui as mis un brassard SS ?» J'espère qu'elle n'est pas armée, ta carne. Méchanceté gratuite. Envie gratuite de blesser. Tu sais très bien que tu ne risques rien de cette petite boule de poil. T'es même pas juif. Tu sais très bien que le seul déprédateur, le seul tueur, pour le plaisir, la seule nuisance à pattes, se tient sur celle de derrière. Afin d'avoir les mains libres pour y serrer son fouet à transformer les chiots en miliciens bavants. Me faire ça à moi, Jean-Louis. À moi qui suis ton ami, et qui te l'ai prouvé, puisque une fois au moins, je t'ai déçu moi-même. Les copains se comptent sur les doigts de la déesse Vishnu qui pouvait faire la vaisselle en applaudissant le crépuscule. Bon, ils déçoivent peu, car on en attend moins. Mais c'est quand même important qu'ils pensent aux saucissons quand le temps se remet au déjeuner sur l'herbe, ou qu'ils viennent se serrer un peu pour faire chaud quand le petit chat est mort, ou pour faire des révérences à l'enfant nouveau. Les bons copains se comprennent à demi-mot. Il règne entre eux une complicité de tireurs de sonnettes qu'entretient parfois l'expérience du frisson. Les relations se comptent sur les doigts des cœurs de l'armée rouge. Mais on sera bienvenu de n'entretenir que les bonnes, celles sur lesquelles on peut s'appuyer sans risquer de tomber par terre. Quand on n'a pas de glaïeul, certaines relations peuvent faire très jolies dans les soirées mondaines, à condition qu'elles soient célèbres ou stigmatisées de la Légion d'honneur. Il suffit alors de les appeler « Coco !» en les embrassant gaiement, comme si on les aimait. Et comme cela se fait dans mon milieu, le commun ne manquera pas de s'esbaudir. Il arrive que certaines relations soient susceptibles de se muer en amitié. Mais le temps n'a pas tout le temps le temps de prendre à temps le temps, de nous laisser le temps, de passer le temps. Mais le temps n'a pas tout le temps de prendre à temps le temps, de nous laisser le temps, de passer le temps. Les gens qu'on ne connaît pas, les doigts nous manquent pour les compter. D'ailleurs, ils ne comptent pas. Il peut bien s'en massacrer, s'en engloutir, s'en génocider des mille et des cents. Chaque jour que Dieu fait, avec la rigueur et la grande bonté qui l'ont rendu célèbre jusqu'à l'embarrainé, il peut bien s'en tronçonner des wagons entiers, les gens qu'on ne connaît pas, on s'en fout! Le jour du récent tremblement de terre de Mexico, Le gamin de mon charcutier s'est coupé un auriculaire en jouant avec la machine à jambon. Quand cet estimable commerçant évoque aujourd'hui cette date, que croyez-vous qu'il lui en reste? Était-ce le jour de la mort de milliers de gens inconnus? Ou bien était-ce le jour du petit doigt? Je verrais bien une cinquième catégorie, où s'inscrirait unique la femme qu'on aime sur le bout des doigts, parce qu'on la connaît par cœur. Lettre ouverte à monsieur le chauffeur du taxi, immatriculé 790 BRR 75. Monsieur le chauffeur du taxi 790 BRR 75, je ne vous oublierai jamais. Aussi longtemps que Dieu me prêtera vie, merci mon Dieu de me laisser le cancer en sourdine, je reverrai avec une diabolique précision d'entomologiste la misérable configuration boursouflée de votre sale gueule de turfiste mou, la balourdise chafouine de votre regard borné et la vulgarité indicible de vos traits grotesques encadrés derrière votre pare-brise avec des grâces de tête de veau guettant la sauce ravigote à la vitrine du tripier bovin. Homer ou Ray Charles, je ne sais plus quel aveugle de naissance, ose affirmer que l'habit ne fait pas le moine. Il y a pourtant des tronches qui sont des aveux. Et la vôtre, monsieur le chauffeur du taxi 790 BRR 75, ne mérite pas le pardon. C'était par un de ces matins d'avril parisiens, tout frémissant de printemps sous les platanes vert tendre, où l'imbécile et le poète se prennent à trouver la vie belle. Vous vous êtes rangé le long du trottoir, à 10 mètres devant moi. La porte arrière, côté trottoir, s'est entrouverte. Avec une lenteur infinie, sous la pression désordonnée d'une main fébrile, que prolongeait un bras nu, décharné. C'était une main effroyablement tordue par les rhumatismes, désespérément crochue pour ne pas lâcher la vie, une main translucide parsemée de ces étranges taches brunes et lisses qui dessinent parfois d'improbables mouches sur la peau des vieillards finissants. Au prix d'un effort pictural surhumain de sa main jumelle, cette main pitoyable rutilait par 5 fois de l'éclat saugrenu d'un vernis cerise. Dérisoire coquetterie de la très vieille dame qui devait à l'évidence constituer la partie cachée de ce membre à peine supérieur. Je ne le dis pas à votre intention, monsieur le chauffeur du taxi 790 BRR 75, car il me plaît de penser que la sérénité de votre abrutissement global ne vous autorise pas à hisser votre entendement au-dessus d'une rumination céphalogastrique de base. Mais il me semble que nous ne devrions pas sourire de cette ultime tentative de plaire qui incite les vieillards au bord du grabat à continuer à se peindre. C'est peut-être une expression de l'instinct de conservation. J'ai entendu un jour Madame Simone Veil faire observer que la plupart des rescapés des camps de la mort nazie avaient puisé la force morale et physique de survivre dans un souci quotidien de fragile dignité qui les poussait à continuer de se tailler la moustache ou de se tresser les nattes jusqu'au fond de leur enfer. De la portière que la première main maintenait tant bien que mal entr'ouverte, la seconde a jailli, fébrilement cramponnée à une sobre canne blanche qui battait l'air en tous sens, à la recherche aveugle d'un bout de trottoir ou de caniveau. En même temps, la tête et la jambe gauche de votre cliente, monsieur le chauffeur, tentèrent une première sortie de l'habitacle enfumé de gauloise et tendu de sky craquelé qui vous tient lieu de gagne-pain automobile. C'était une jambe vieille de vieille, autant dire un tibia décharné, avec un gros genou ridicule en haut, et à l'autre extrémité un escarpin noir dont la boucle dorée tentait, en vain, d'apporter un éclat de gaieté pédonculaire à ce mollet posthume. Incapable de s'extraire seul de votre taxi, cette si vieille dame lançait tant bien que mal, à petits coups comptés de sa nuque fripée, une tête ratatinée de tortue finissante, dont les yeux usés appelaient à l'aide. En vain, au-dessus d'un de ces sourires humbles des vieux, dont Brel nous dit qu'il s'excuse déjà de n'être pas plus loin. Enfin, elle apparut à la rue tout entière, en équilibre au bord de la banquette, hagarde, en détresse, les bras tendus vers rien, les jambes ballantes au-dessus du bitume, le corps brisé, péniblement fagoté dans un sombre froufrou passé suranné. Elle apparut, ridicule enfin, comme la mouette en mazouté qui ne sait plus descendre de son rocher. Cette scène d'une consternante banalité pour qui sait regarder la rue ne dura pas plus d'un instant. Et j'y mis fin moi-même en aidant la très vieille dame à toucher le sol. Mais cet instant parut s'éterniser jusqu'à l'insoutenable. À cause de vous, monsieur le chauffeur du taxi 790 BRR 75, pendant tout le temps que cette dame semi-grabataire vécut en geignant son supplice ordinaire, vous ne bougeâtes pas d'une fesse votre gros cul content de crétin moyen populaire. Et vos pattes velues d'haltérophile suffisant ne quittèrent pas une seconde le volant ou vos doigts pianotés d'impatience. Pas une fois, votre tête épaisse de con jovial trentenaire ne quitta le rétroviseur ou vos petits yeux durs de poulet d'élevage ne perdaient rien de ce qui se passait dans votre dos. Dormez tranquille, monsieur le chauffeur du taxi 790 BRR 75. Il ne viendrait à personne l'idée de vous inculper, à partir de mon témoignage, de non-assistance à personne en danger. Vous n'avez strictement rien fait de mal ou d'illégal. Vous n'avez pas laissé un enfant se noyer. Vous n'avez pas regardé un piéton blessé se vider de son sang devant votre capot. Vous êtes irréprochable. L'infinie médiocrité de votre lâcheté, l'impalpable étroitesse de votre égoïsme sordide et l'inélégante mesquinerie de votre indifférence ne vous vaudront d'autre opprobre que celui du passant quelconque qui, dans l'espoir de vous voir un jour tomber de béquille pour avoir l'honneur de vous ramasser par terre, vous prie d'agréer, monsieur le chauffeur du taxi 790 BRR 75, l'expression de ses sentiments distingués. Voici bientôt 4 longues semaines que les gens normaux, j'entends les gens issus de la norme avec 2 bras et 2 jambes pour signifier qu'ils existent, subissent à longueur d'antenne les dégradantes contorsions manchottes des hordes encalessonnées sudoripares qui se disputent sur gazon l'honneur minuscule d'être champion de la balle aux pieds. Voilà bien la différence entre le singe et le footballeur. Le premier a trop de mains, ou pas assez de pieds, pour s'abaisser à jouer au football. Le football. Quel sport est plus laid, plus balourd, moins gracieux que le football? Quelle harmonie, quelle élégance, l'esthète de base pourrait-il bien découvrir dans les trottinements pâteaux de 22 handicapés velus, qui poussent des balles comme on pousse un étron, en ahanant des râles vulgaires de bœufs éteints. Quel bâtard en rut de quel corneau branlé oserait manifester publiquement sa libido en s'enlaçant frénétiquement comme ils le font par paquet de 8, à grands coups de pattes grasses et mouillées, en ululant des gutturalités simiesques à choquer un rocker d'usine. Quelle brute glacée, quel monstre décérébré de quel ordre noir oserait rire sur des cadavres. Comme nous le vîmes en vérité certains soirs du Hazel, où vos idoles, calamiteux gaullistes extatiques, ont exulté de joie folle au milieu de 40 morts piétinés, tout ça parce que la babale était dans les bois. Je vous hais, footballeur. Vous ne m'avez fait vibrer qu'une fois. C'est le jour où j'ai appris que vous aviez attrapé la chiasse mexicaine en suçant des frites aztèques. J'eusse aimé que les amibes vous coupassent les pattes jusqu'à la fin du tournoi, mais Dieu ne l'a pas voulu. Ça ne m'a pas surpris de sa part, il est des vôtres. Il est comme vous, il est partout, tout le temps. Quoi qu'on fasse, ou qu'on se planque, on ne peut y échapper. Quand j'étais petit garçon, Je me suis cru longtemps anormal parce que je vous repoussais déjà. Je refusais systématiquement de jouer au foot, à l'école ou dans la rue. On me disait « Oh, la fille !» ou bien « Tiens, il est malade !» Tellement l'idée d'anormalité est solidement solidaire de la non-footballité. Je vous emmerde. Je n'ai jamais été malade. Et quant à la féminité que vous subodoriez, elle est toujours en moi. Et me pousse au temps chaud à rechercher la compagnie des femmes, y compris celle des vôtres, que je ne rechigne pas à culbuter quand vous vibrez au stade. Pouf, pouf. Mercredi, rude journée, pas d'école, les minuscules sont lâchés. Ils font rien qu'embêter les parents qui essaient de faire des chroniques dans le poste. Ils font rien qu'à leur poser des questions idiotes. Tout à l'heure, il y en a une avec du chocolat poisseux plein la figure qui est venue le partager avec mes cheveux sous prétexte de câlin. On ne devrait pas procréer ainsi à l'aveuglette. On devrait élever des poissons rouges. Et en plus d'engluer, ça pose des questions idiotes. Papa, c'est où le règne animal? Le père est à son ouvrage, il entend d'une oreille incertaine. On ne dit pas le règne animal, on dit le règne de animal. Papa, la maîtresse, elle a dit animal. Je n'aime pas être contredit par des êtres inférieurs. Surtout quand j'ai tort. Mais comme nous sommes mercredi, et que vous êtes des milliers, chers adorables Minus, à traîner à porter des transistors, au lieu de vous rendre utile en défenestrant le chat pour voir si ça rebondit, voici mon cours du soir sur le règne animal. On prend son cahier, on prend son crayon noir. Je ne veux pas de feutre, ça tache le chocolat. En titre, le règne animal. Animal en un seul mot. Imbécile. Le règne animal se divise en trois parties. 1. Les animaux. 2. L'homme. 3. Les enfants. 1. Les animaux. Les animaux sont comme des bêtes, d'où leur nom. Ne possédant pas d'intelligence supérieure, ils passent leur temps à faire des bulles ou à jouer dans l'herbe au lieu d'aller au bureau. Ils mangent n'importe quoi. Très souvent, par terre. Ils se reproduisent dans les clairières et parfois même place de l'église avec des zézettes et des foufounettes. Des zézettes et des foufounettes. Les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir. Les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir. 2. L'homme. Alors, remarquons au passage que si on dit les animaux au pluriel, on dit l'homme au singulier. Parce que l'homme est unique. De même, nous dirons que les animaux font des crottes alors que l'homme sème la merde. L'homme est un être doué d'intelligence. Sans son intelligence, il ferait des bulles ou jouerait dans l'herbe au lieu de penser au printemps dans les embouteillages. Grâce à son intelligence, l'homme peut visser des boulons chez Renault jusqu'à 60 ans sans tirer sur sa laisse. Il arrive aussi, mais moins souvent, que l'homme utilise son intelligence pour donner la possibilité à l'humanité de se détruire en une seconde. On dit alors qu'il est supérieurement intelligent. C'est le cas de M. Einstein, qui est malheureusement mort trop tard. Ou de M. Sakharov, reconverti dans l'humanisme enfermé trop tard également. Les hommes ne mangent pas de la même façon selon qu'ils vivent dans le nord ou dans le sud du monde. Alors, dans le nord du monde, ils se regroupent autour d'une table. Ils mangent des sucres lourds et des animaux gras en s'appelant « cher ami », puis succombent étouffés dans leur graisse en disant « Oh, docteur, oh, docteur !» Alors, dans le sud du monde, ils sucent des cailloux et des pattes de vautours morts et meurent aussi, tout secs et désolés, et penchés, comme les roses qu'on oublie d'arroser. Pour se reproduire, les hommes se mettent de petites graines dans le derrière en disant « Ah oui, Germaine !» Les enfants, contrairement aux hommes ou aux animaux, ne se reproduisent pas. Pour avoir un bébé, il est nécessaire de croire à cette histoire de petites graines. Malheureusement, les enfants n'y croient plus tellement. À force de voir jouer les animaux dans l'herbe aux heures de bureau, ils s'imaginent, dans leur petite tête, pas encore éveillée à l'intelligence, qu'il faut des zézettes et des foufounettes pour faire un bébé. En réalité, les enfants ne sont ni des hommes, ni des animaux. On peut dire qu'ils se situent entre les hommes et les animaux. Observons un homme occupé à donner des coups de ceinture à une petite chienne cocker, marrante comme une boule de duvet, avec des yeux très 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 émouvants. Si un enfant vient à passer, hop, il se met aussitôt entre l'homme et l'animal. Ah ben c'est bien ce que je disais. Waouh. C'est pas une raison pour nous coller du chocolat poisseux plein la figure quand nous écrivons des choses légères pour oublier les vautours. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Remettons le petit prince à sa place. De nombreux sous-doués boursouflés d'inculture me demandent pourquoi la Vénus de Milo et le petit prince de Saint-Exupéry étaient fâchés à mort. C'est simple. Revoyons les faits. La Vénus de Milo avait mauvais caractère. J'ai pas de bras, c'est pas le pied. Le petit prince, lui, était un fort bel enfant, aux grands yeux émerveillés par la beauté des choses. Je suis un fort bel enfant, aux grands yeux émerveillés par la beauté des trucs, des choses. La rencontre entre le petit prince et la Vénus de Milo dégénéra très vite en drame. Regardez. Bonjour, Vénus de Milo. Bonjour, petit prince. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. C'est malin. Petit con. Étonning, note.
Étonning, note.
Il faut retarder l'heure matinale de se revoir au miroir. Aujourd'hui, un peu plus mort qu'hier, et bien moins que demain. C'est beau ce que je dis là. Hein ? On dirait du Giraudoux. Quel con ce Giraudoux. Pourtant, il était limousin.
Mais quel con. Encore un qui buvait de l'eau. On n'écrit pas Ondine impunément. Ben, j'exagère. Ondine, c'est pas que de la flotte. Il y a à boire et à manger. Rappelez-vous la scène du dîner de l'acte 2. Eh ben, si, rappelez-vous. La scène représente la scène. Côté cour, un jardin. Côté jardin, la mer. Au centre, l'humble masure d'Ondine, au dos des dunes, où la mère d'Ondine dresse la table. Par la fenêtre, Ondine regarde la mer. Pas la mer, la mer. Elle est amère. Pas la mer, Ondine. Son œil scrute l'océan où sa mère doit, pardon, où son père doit pêcher le congre ou le bar. Le congre que le bar abhorre ou le bar que le congre est. Car Ondine a la dalle et la mère a l'écrou. Selon qu'il aura pris la barque à barre ou la barque à congre, le père devra remplir la barque à barre à rabord de barre ou la barque à congre à rabord de congre. Or, il n'a pas pris la barque à congre. Il a pris la barque à barre. À l'arrière-plan, le spectateur voit, au flanc de la montagne rouge feu, moutonner un maquis vert. Il y serpente des chemins rares qui débouchent soudain sur des criques sauvages où nul imbécile cintré dans sa bouée Snoopy ne vient jamais ternir de son ombre grasse et populacière l'irréelle clarté des fonds marins mordorés où s'insinue le congre. Que donc le bar à bord? Le congre est barivore, et donc le bar à bord. Le bar est fermé au congre, du fait même que le palais des congres est ouvert au bar. Le court extrait d'Ondine, que je vais avoir l'honneur de vous interpréter ce soir, en tant que sociétaire de la Comédie Française, se situe au moment précis où Ondon, le frère d'Ondine, part pour la Crète. La nuit tombe. La mère d'Ondine et d'Ondon appelle sa fille. La mère. Ondine. Ondine. Oui, la mère. La mère. Tu as vu l'heure? Ondine. Oui, la mère. Et alors? La mère. Et alors, Ondine? Et Tony Schnein.
Et Tony Schnein. Et Tony Schnein.
Faudrait, c'est une bonne guerre. Nombreux sont autour de nous les gens qui lâchent cette petite phrase en soupirant. Mais l'instant d'après, ils s'en retournent vaquer à leur petite vie mesquine et ils n'y pensent plus. Or, si nous voulons vraiment la guerre, il ne s'agit pas de l'appeler de nos voeux en levant les yeux au ciel d'un air impuissant. Pour qu'un sang impur abreuve de nouveau nos sillons, il nous faut semer véhémentement l'idée de la guerre. Tiens, pourquoi n'organiserions-nous pas une guerre française, dans laquelle les forces en présence seraient toutes françaises? Réfléchissons un instant. Allez, prends ta tête à deux mains, mon cousin. Pour que l'idée de guerre germe dans le cœur de l'homme. Il faut que l'homme entretienne en lui la haine de l'autre. En 1914, bon tiens, 14-18, alors ça c'est de la guerre. Hein. Les jeunes soldats français croyaient dur comme fer que les Allemands avaient les pieds crochus, sentaient le purin et n'arrêtaient de boire de la bière que pour venir jusque dans nos bras égorger nos filles et nos compagnes. Grâce à quoi, à cette époque, les jeunes français avaient les cheveux courts. Et ne fumez pas des saloperies que la morale réprouve. Bon, d'accord, ils sont morts. Mais les cheveux courts. Ainsi, puisque la haine est le moteur de la guerre, apprenons à nous haïr entre nous. Ah, certes, il est plus facile de haïr les Arabes ou les Anglais, dont les mœurs incroyablement primitives ont de quoi nous révulser. Est-ce que je mange du gigot à la menthe en me tournant vers la Mecque, moi? Non, je suis normal. Je mange des cuisses de grenouille en me tournant vers Guy Darbois. Ainsi, pour bien nous haïr entre nous, nous devons tenter d'oublier ce qui nous unit et mettre l'accent sur ce qui nous divise. Chaque région de ce pays a ses rites et coutumes qui ne sont pas les mêmes que ceux de la région d'à côté. Apprenons à les connaître. Apprenons à les détester. C'est à ce prix que nous aurons la guerre civile franco-française, ultime recours pour nous sortir de la crise. Les Béarnais, sont-ils des gens comme nous? Je dis non. J'ai sous les yeux un pot de sauce béarnaise. Vous savez ce qu'ils mettent dans la sauce béarnaise, les Béarnais? Insinuante. Huile de soja, 63%. Huile de soja, 63%! Et d'où vient tout ce soja? Mais de Chine, bien sûr! De là à prétendre que les Béarnais ont signé un pacte secret avec la Chine rouge, il n'y a qu'un pas! Allons-nous hésiter à le franchir allègrement? Non! D'autre part, de peau à foie et de foie à peau, on ne rencontre que des dégénérés alcooliques, détruits jusqu'à l'os par les abus de jambon de Bayonne, que ces gens-là trempent en tranches épaisses dans leur grand bol plein d'alcool de pruneau.
À jeun, bien sûr.
Ainsi, ceux de peau ont des maladies de foie, ceux de foie ont des maladies de peau, c'est dégueulasse. Sus, mes preuves, mort au Béarnais. Les bourguignons, sont-ils des gens comme nous? Je dis non. D'abord, dans la fondue bourguignonne, ils mettent de la sauce béarnaise. Ce sont donc des collabos. N'ayons pas peur des mots. D'autre part, les bourguignons ont-ils jamais été capables de produire quoi que ce soit de bon à partir du sol de la Bourgogne? Certes non, me disait justement un ami, vigneron près de Bordeaux.
Bon, certes, certaines régions de Bourgogne donnent une humble piquette que les uns boivent à Dijon et que les autres pissent de Beaune.
Mais peut-on appeler ça du vin? Sus, mes preux, mort aux Burgondes!
Les Bordelais?
Les Bordelais sont-ils des gens comme nous? Je dis non! D'abord, certains habitants du Bordelais boivent du vin de Bourgogne, ce sont donc des collabos n'ayant toujours pas peur des mots. Les Bordelais sont très laids. Au reste, dans Bordelais, il y a lait. De même que dans Pinochet, il y a Hochet. Mais comment se fait-il que les Bordelais soient si laids alors que leurs femmes sont girondes? C'est une raison de plus pour déclarer la guerre à ces gens. Trucidus et fornicae, mamelae, guerrae sunt. Tuer et violer sont les deux mamelles de la guerre. Mais seigneur, que les Bordelais sont laids! Avez-vous vu à quoi ressemble le duc de Bordeaux? Sus, mes preux! Mort aux Bordelais! Et les Normands sont-ils des gens comme nous? Je dis non! Les Normands sont fourbes aux yeux bleus. Ils doivent cette particularité psycho-anatomique aux retombées de la guerre de Cent Ans, qui fit rage en France pendant de longues semaines, et qui mit face à face les Anglais, venus d'Angleterre, et les Français, venus du bistrot. Or, nous le savons, et pas seulement de Marseille. Tous les Anglais sont fourbes aux yeux bleus, et tous les bâtards de ces fornications guerrières, dont les descendants peuplent aujourd'hui la Normandie, héritèrent de ce double caractère, grâce auquel on peut aisément reconnaître un Normand d'un communiste. Car le communiste est fourbe, certes, mais avec les yeux rouges.
Donc les Normands sont anglais. Autre preuve que les Normands sont anglais. Ils mangent du gigot à la menthe. Sans menthe, me direz-vous, bon, d'accord. Et alors? Quand le duc d'Édimbourg mange des patates à la braise, il ne mange pas la braise, que je sache. Est-ce que ça prouve qu'il n'est pas anglais? Suce, mes preux, mort en Normand. Et les Bretons? Les Bretons sont-ils des gens comme nous? Je dis non! Le Breton est têtu! Sinon, pourquoi dirions-nous d'un Breton, il est têtu comme un Breton? Le Breton est appelé ainsi parce qu'il est têtu. Je n'en démordrai pas. Jamais! Jamais! Suce, mes preux, mort au Breton!
Mesdames, messieurs, le temps qui m'est imparti touche à sa femme. Mais dans un prochain chapitre, nous chercherons les bonnes raisons d'attaquer la Seine-et-Marne. Il y a des inventeurs lumineux dont la gloire fracassante résonne longtemps après eux dans les plaines de la connaissance humaine. Et puis, il y a les inventeurs obscurs, les génies de l'ombre qui traversent la vie sans bruit et s'effacent à jamais sans que la moindre reconnaissance posthume viennent apaiser les tourments de leur âme errante qui gémit au vent mauvais de l'infernal séjour, sa désespérance écorchée aux griffes glacées d'ingratitude d'un monde au ventre mou sans chaleur ni tendresse. Parmi ces besogneux du progrès, ces gagnes petits de la connaissance qui ont contribué sans bruit à faire avancer l'humanité de l'âge des cavernes obscurantistes à l'ère lumineuse de la bombe à neutrons, comment ne pas prendre le temps d'une pensée émue pour nous souvenir de Jonathan siffler ce train. L'humble et génial inventeur du pain pour saucer. Jonathan siffler ce train, dont le bicentenaire des 200 ans remonte à 2 siècles, est né le 4 décembre 1782 à Saint-Suffit-les-Gonesse, au cœur de la Bourgogne gastronomique. Son père était gribichier mayoniste du roi, et sa mère, Catherine de Méducel, n'était autre que la propre fille du comte Inu de Touillet-Connard, qui fit sensation le soir du réveillon de 1779 en servant à Versailles une laitue avec une nouvelle vinaigrette tellement savoureuse que Marie-Antoinette le fit mander le lendemain à Trianon pour connaître son secret. C'est tout simple, Majesté. Pour changer, j'ai remplacé le chocolat en poudre par du poivre. Oh, voilà qui est bien. Comte Inu de Touillet-Connard. Continue, je te dis, c'est bon. C'est bon, oh là là, oh oui, c'est bon, oh oui, oh oui, oh oui. Bien.
Bien entendu, l'enfance du petit Jonathan siffler ce train baigna tout entière dans la sauce. Debout sur un tabouret, près des fourneaux de fonte où ronflait un feu d'enfer, il ne se lassait jamais de regarder son père barattant les jus délicieux à grands coups de cuillère en bois, tandis que sa mère, penchée sur d'immenses poêlons de cuivre rouge, déglaçait à petites rasades de vieux cognac le sang bruni et les graisses rares des oies du Périgord, dont les luxuriantes senteurs veloutées se mêlaient aux graciles effluves des herbes fines pour nous éblouir l'odorat jusqu'à la douleur exquise des faines dévorantes point encore assouvies.
Ici même les mémés aiment la castagne. Au mon pays, au Toulouse, au Toulouse.
Hélas, au moment du repas, la joie presse-stomacale de Jonathan se muait invariablement en détresse. Quand il avait fini d'avaler en ronronnant l'ultime parcelle de chair tendre que son couteau fébrile arrachait au cuisseau du gibier, il restait là, médusé, pantelant de rage, boursouflé d'une intolérable frustration devant le spectacle insupportable de toute cette bonne sauce qui se figeait déjà dans son assiette, à quelques pouces de ses papilles mouillées de désir et de sa luette offerte, frissonnante au creux de sa gorge moite, dans l'attente infernale d'une bonne giclée du jus de la bête entre ses lèvres écartées. Ah, ah la sauce oh. En vérité, je vous le dis, mes frères, il faut être végétarien ou socialiste pour ne pas comprendre l'intensité du martyre qu'enduraient ces heureux gastronomes de ces temps obscurs, soumis aux rigueurs d'un protocole draconien qui sévissait jusqu'au tréfonds des campagnes, où le clergé avait réussi à l'imposer, en arguant, comme toujours, la valeur rédemptrice de la souffrance. Ces malheureux dégustaient leur plat de viande en sauce à l'aide de la seule fourchette et du seul couteau, après qu'un décret papal de 1614 eût frappé d'hérésie l'usage de la cuillère. Pour bien imaginer l'intensité d'une telle cruauté, essayez vous-même, misérable profiteur repu de la gastronomie laxiste de ce siècle dégradant, essayez de saucer le jus de gigot à la pointe de la fourchette, avec un couteau. C'est l'enfer, c'est atroce, c'est aussi définitivement intolérable qu'une nuit passée dans un poumon d'acier avec Carole Laure à poil couchée dessus. Curieuse coïncidence, c'est le jour même de son anniversaire que Jonathan sifflait ce train, eut l'idée de sa vie, l'idée géniale qui allait enfin transformer le supplice tantalien du festin parasocié en délice juteuse inépuisable. C'était
le 4 décembre 1802. Ce siècle avait 2 ans. Déjà Napoléon percé sous Bonaparte. Et déjà Bonaparte percé sous Joséphine. Jonathan sifflait ce train. Déjeunait au sanglier Chafouin, le restaurant en vogue du gratin consulaire, en compagnie d'une jeune camériste bonapartiste de gauche qui comptait culbuter au pousse-café. Or, Jonathan sifflait ce train, terminait son sanglier Melba grand veneur, quand le serveur, un ancien hippie de la campagne d'Égypte, gorgé d'herbes toxiques et de calvats du Nil, laissa malencontreusement choir sa corbeille à pain sur la table, où Jonathan commençait à baiser des yeux sa camarade pour oublier la bonne sauce qui se figeait déjà dans son assiette et dans laquelle une énorme tranche de pain de campagne flaf vint s'enliser dans un grand floc grasseillant. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, s'écria le jeune homme, et s'emparant d'une autre tranche moelleuse, il l'attendit à sa compagne, qui n'était autre que Marie Curie, créatrice de la sauce du même nom. Et il lui dit, Marie, trempe ton pain. Marie, trempe ton pain dans la sauce. Ce qu'elle fit, bien sûr. Ah, et alors là, oh miracle, le jus bien gras fut aspiré par la mie que la jeune femme s'écrasa sur la gueule en happant comme une bête goulue, et la bonne graisse vineuse à la crème beurrée à l'huile de saindoux margarinien
saturé de vin chaud à l'alcool à brûler du père Magloire, lui envahit divinement l'estomac. Son estomac, dont le joyeux cancer naissant n'en demandait pas tant. Jonathan sifflait ce train, venait d'inventer le pain pour saucer.
Faut pas se laisser abattre. On n'est pas des bœufs. Les bœufs se laissent abattre. Il suffit que l'abatteur dise au bœuf « Viens ici, mon kiki. » Pour peu qu'il s'agisse d'un bœuf qui s'appelle mon kiki. Et voici ce grand con de la boue qui s'avance, à pas lourd, chaloupé, clapotant du sabot sur le carreau lessivé, dans les flaques aseptiques du pimpant assommoir à bovin comestible. D'un geste de tueur américain, l'abatteur, à bout de bras, pointe un flingue, à coup sûr pneumatique, entre les deux grands beaux yeux tristes mous, qui font souvent au bœuf, avant même qu'on ne l'abatte, le regard abattu. Ça fait tout juste plop. Et c'est parti. Je veux dire mon kiki. C'est parti au paradis des bœufs qui se laissent abattre et s'en vont paître dans les verts pâturages jusqu'à l'éternité, dont on nous dit pourtant que c'est dur, surtout vers la fin. Personnellement, je ne broute pas de ce foin-là. Je ne courbe pas les chines aux abattoirs promis. Quelle que soit la tuile ou quelle que soit l'ardoise, je dis merde à la brèche qui veut me fissurer.
Ainsi, caracolège de radioscope ordinaire en médecin communal par un matin d'automne, époustouflant d'insignifiance, où m'agaçait un point de côté. Pas plus angoissé que d'habitude, c'est-à-dire inextricablement noué de l'œsophage au côlon, par la certitude de mon trépas prochain dans des souffrances torquemadesques, j'ennuyais mes docteurs au récit d'intérêt vicinal de mes chatouilles et gratouilles à la knoque moelleux. Bittenberg et Schwarzenstrumpf. C'était pas un point de côté. C'était un cancer de biais. Il y avait à mon insu, sous-jacent à mon flanc, squatérisant mes bronches, comme un crabe, affamé, qui me broutait le poumon. Le soir même, chez l'écaillé du coin, j'ai bouffé un tourteau. Ça nous fait un partout.
C'était, enregistré au Vieux Colombier le 9 mai 2010, Christian Gonon, dans « La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute ». Un spectacle constitué de textes de Pierre Desproges, extraits de « Chronique de la haine ordinaire »,« La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède » et « Vivons heureux en attendant la mort ». Ces extraits, réunis par Christian Gonon, sociétaire de la Comédie Française, ont été mis en scène par Alain Langlais et Marc Fayet. Musique de Jérôme Détour. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Antoine Diossa. Mise en onde, Maya Boquet et Myron Merson.